Fréquence protestante, le Midi Magazine, Florence Terret.
Bonjour, amis auditeurs. Alors, à quoi sert la justice pénale? Eh bien, tentons une définition, à protéger la société, à sanctionner les violations de la loi, tout en respectant, bien sûr, les droits de la défense. Et à côté de cette justice pénale, on a beaucoup parlé, avec la loi Taubira, toute récente, d'une autre forme de justice qui s'appelle la justice restaurative. Mon invité, Robert Carillo, est donc le président de l'Institut français pour la justice restaurative. Nous allons lui demander de quoi il s'agit. Robert Carillo, bonjour.
Bonjour Florence.
Et merci de venir de loin, parce que vous êtes plutôt basé dans le sud-ouest.
Oui, je viens de Pau.
Voilà.
Et je salue tous les auditeurs.
Et vous n'en avez pas l'accent de Pau?
Non, parce que je suis breton d'origine.
Ouh, ça doit faire un sacré mélange.
Oui, mais un bon mélange.
Un bon mélange.
La France est pluriculturelle.
Absolument, nous sommes bien d'accord. Alors, quelques petits mots pour vous présenter à nos auditeurs. Vous avez 66 ans, vous êtes professeur de criminologie, co-directeur du master criminologie et droit des victimes, et directeur de l'unité Jean Pinatel de sciences criminelles comparées. Je signale aux auditeurs que Jean Pinatel a été l'un des criminologues majeurs du XXe siècle. Et vous écrivez, et vous avez écrit, de très nombreux ouvrages sur les matières que vous enseignez, et je dirais sur les thèmes que vous défendez. Moi, je voudrais tout de suite une petite question pour compléter cette présentation. Qu'est-ce que c'est que la criminologie ?
La criminologie est une science qui a pour objet d'envisager le phénomène criminel dans tous ses aspects.
C'est-à-dire ?
La prévention du crime,
oui.
Le traitement du crime, et cela passe aussi, bien évidemment, par la répression du crime tel que je l'entends, c'est-à-dire par le procès pénal, naturellement. Et l'ambition est, en participant à ces trois grandes missions, de permettre à ceux qui, aujourd'hui, sont exposés à des conflits, en provenant généralement de précarités multiples, d'envisager une vie sereine, une vie d'intégration dans notre humanité. Mais malheureusement, lorsque la transgression a lieu, la sanction s'impose pour l'un, l'indemnisation se pose pour l'autre, mais à l'expérience et à l'écoute des protagonistes principaux, l'infracteur, la victime, leur satisfaction quant à leur prise en charge par le système de justice pénale pour répondre aux attentes de tranquillité sociale et de sécurité leur semble très largement insuffisante.
Alors, donc on en vient tout doucement à notre sujet, c'est-à-dire la justice restaurative. Bon, qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression « justice restaurative » ?
Alors, c'est vrai que dans la francophonie, plusieurs traductions, pourrait-on dire, du concept anglo-saxon de « restorative justice » ont été proposées. Justice réparatrice, justice transformatrice, justice créatrice, restauratrice, etc. J'ai quant à moi opté pour l'expression « justice restaurative », car en France, réparer une personne semble assez invraisemblable aujourd'hui, notamment dans le champ des positivistes, pénalistes, qui, parfois, sans ironie, mais avec beaucoup d'incompétence, estiment qu'on répare une voiture, mais en aucun cas une personne. Et puis, pour affirmer cette orientation restaurative, je suis revenu au vieux français, qui exprimait au travers du mot « restaurar » la guérison. Mais une guérison, bien évidemment, qui n'a rien de clinique. C'est une guérison qui doit conduire à ce retour nécessaire, inévitable, des uns comme des autres au sein de notre société.
Mais alors, dans vos propos, là, en réponse à ma première question sur la criminologie, vous avez glissé tout doucement de la criminologie vers votre combat actuel, la justice restaurative. Est-ce qu'effectivement, cette recherche de cette forme de justice fait partie de la criminologie, ou est-ce que c'est vous qui en êtes venu là, à force d'étudier finalement le crime, entre guillemets, et ses conséquences sur les personnes et sur la société?
Non, très clairement, la justice restaurative s'inscrit dans la criminologie, plus globalement dans les sciences humaines et sociales, dans la mesure où la criminologie, aujourd'hui, se dirige lentement mais difficilement à cause d'un certain nombre de chapelles disciplinaires, de formatage, pourrait-on dire, aussi professionnel dans nos grandes écoles, vers la compréhension du phénomène criminel d'une manière globale. C'est la raison pour laquelle la criminologie aujourd'hui, nous la distinguons autour de deux grands champs, agressologie et victimologie, chacun de ces grands champs se subdivisant naturellement lui-même en criminologie, victimologie générale, criminologie, victimologie appliquée. Et cette évolution conduit absolument naturellement vers l'approche globale qui conduit au-delà de la prise en compte par le système de justice pénale, je préfère parfois l'expression la prise en charge du système de justice pénale, vers la prise en compte des personnes. Le crime est un acte, mais cet acte est la manifestation d'un conflit grave entre deux ou plusieurs personnes.
Mais quand vous parlez justement de l'attention apportée aux personnes, puisqu'il s'agit de ça, selon vos propos, c'est une tendance, vous direz, une tendance profonde, importante, du secteur de la criminologie. C'est quelque chose que Jean Pinatel a mis sur pied. D'où ça vient ?
Bien sûr, mais je pense qu'au-delà de cette certitude que notre champ disciplinaire a acquis une véritable authenticité scientifique, depuis toujours, le crime est une relation entre deux personnes qui conduit à un acte attentatoire à nos valeurs sociales fondamentales. Donc, c'est vrai que par les criminologues, milieu du XIXe siècle, mais on pourrait remonter plus loin, hein, Platon, les grands philosophes, l'accent a été mis sur la personne. Encore une fois...
L'accent et les religions.
L'accent et...
Les religions.
Oui, à cette nuance près que les valeurs qui fondent notre humanité sont universelles. Et peut-être qu'à un moment, il a été utile, comme nous avons codifié le code pénal, de codifier les valeurs. Et j'aurais tendance à dire, dans la mesure où je ne suis engagé dans aucune église, je suis véritablement mécréant, que ce sont les églises, mais ça n'est pas une critique du tout, hein, qui ont traduit en normes nos valeurs. Et parfois, il m'arrive de souligner que ces valeurs universelles qui sont retranscrites dans les grands livres des uns et des autres doivent naturellement caractériser les non-croyants comme moi, les laïcs au sens plus large, mais les non-croyants, car si ceux qui participent de la laïcité ne sont pas envahis, épanouis par les valeurs sociales essentielles que défendent les religions, je doute fort de l'humanité même de ces non-croyants.
Alors, vous avez parlé de philosophie tout à l'heure, et j'aimerais bien justement qu'on en vienne à la philosophie qui sous-tend la justice restaurative, et que vous nous disiez ce qu'est la justice restaurative et ce qu'elle n'est pas, globalement.
La philosophie de la justice restaurative, c'est la prise en compte des personnes. C'est une approche éthique absolument inévitable pour cette raison, et je suis désolé d'insister que si l'acte doit être sanctionné, parce qu'il est inacceptable, les personnes doivent être considérées. Et au travers de cette éthique de la personne, la méthodologie consiste à dire que ces personnes, à la manière de ce qu'avait évoqué Carl Rogers dans ses travaux et de nombreux autres, doivent être remises au centre des préoccupations, précisément, qui ont conduit l'un à passer à l'acte, l'autre à subir cet acte. Cette manière d'empowerment, comme disent les anglo-saxons, d'apprivoisement, j'aime bien cette expression de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qui interroge le corbeau en lui disant « j'aimerais bien que nous devenions amis ». Et le corbeau lui répond « pour devenir ami, il faut que tu m'apprivoises ». « Qu'est-ce qu'apprivoiser ?» lui demande Le Petit Prince. « C'est se sentir responsable de quelqu'un ». Et je crois que c'est exactement ce que, en complémentarité avec le système de justice pénale, la justice restaurative propose. Les conséquences de l'acte, sanction, indemnisation de la victime et du champ pénal, c'est indiscutable, incontournable. Les répercussions du crime sur les personnes, d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue social, est de l'ordre de la justice restaurative.
Les personnes des deux bords, victimes
et leurs proches.
Et leurs proches.
Et les membres de leur communauté d'appartenance. L'objectif étant précisément par cette réponse de droit que propose le juge pénal, d'y apporter une réponse d'équité, les deux conduisant à l'œuvre de justice. Alors, vous dire ce qu'est la justice restaurative, bien évidemment, nous avons élaboré les uns et les autres, et il y a de grands pionniers comme Howard Zaire, John Braithwaite notamment. Je vous dirai ce qu'elle n'est pas. Je crois que c'est essentiel, y compris dans l'intitulé de cette émission qu'on a présentée aux auditeurs tout à l'heure. La justice restaurative n'est absolument pas dirigée vers le pardon. Le pardon, c'est quelque chose d'intime aux personnes, qui leur appartient. Et justement, dans cet espace de parole que promeut la justice restaurative par les mesures qu'elle propose...
Espace de parole entre accusé et victime.
Oui, et je préfère le terme d'infracteur parce que accusé a déjà une connotation juridique,
négative,
pénale.
Oui,
non,
oui.
Pas du tout,
oui.
Mais on se situe au niveau de la cour d'assises.
Oui.
Donc à chaque stade, si vous voulez, du processus pénal, il y a une dénomination particulière. Donc, je parle d'infracteur, c'est celui qui a commis l'infraction, puisqu'on le verra sans doute tout à l'heure. La justice restaurative, mais je l'indiquais dans les missions, d'une certaine manière, de la criminologie au sens large, c'est la prévention, la répression et le traitement. Et nous pouvons aller au-delà, précisément, de la sortie de prison même, hein, sans accompagnement aucun. Donc c'est important de comprendre que ce pardon... n'appartient qu'aux intéressés. Si dans l'espace de parole, de dialogue qu'offre la justice restaurative, certains des participants souhaitent aller vers cette dimension, il n'y a aucun problème.
Mais
l'objectif n'est pas d'aboutir, et je souligne cela, n'est pas d'aboutir au pardon. Ça n'est pas notre objectif du tout.
Alors, je vous interromps là pour vous poser une petite question. Vous ne vous situez pas finalement dans le droit fil de ce qu'a fait Desmond Tutu en Afrique du Sud?
Si, bien sûr, mais Desmond Tutu n'avait pas pour ambition, quand bien même il appartient à une église en particulier, d'aller vers le pardon réciproque, mais d'aller vers la réconciliation autant que faire se peut des intéressés.
Donc en fait,
par l'espace de parole, par la verbalisation, dans le cadre de cette commission Vérité-Réconciliation, il a pu advenir que certains ont échangé sur cette modalité, pourquoi pas même réciproque, d'un pardon. Mais ce n'était pas l'objectif de la commission Vérité-Réconciliation. Réconciliation et vérité.
Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir réconciliation sans pardon ?
Naturellement. Pourquoi une victime devrait pardonner ? Pourquoi un infracteur devrait demander pardon ? Hein, la raison de la justice restaurative, c'est de leur permettre de se retrouver ensemble et de tenter d'envisager les réponses que tous ont envie de poser. Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça n'arrive pas ? Qu'est-ce que l'on peut faire pour avancer, qu'est-ce que l'on peut faire, comment on peut éviter que ça ne se reproduise. La formule la plus simple, je crois, à retenir, c'est que la réponse pénale nécessaire, j'insiste bien, porte sur le passé de la faute, le passé de l'acte.
Le passé de
la réponse restaurative porte sur l'avenir des personnes. Et ça, c'est fondamental, en complémentarité avec le système de justice pénale, inévitablement. Mais le système de justice pénale, vous le savez, embrasse beaucoup les comportements individuels, conflictuels. Donc l'heure est peut-être venue d'une dépénalisation massive, comme en matière de criminalité d'affaires, pour ne retenir que les faits les plus graves. Et l'on sait par expérience validée, malheureusement l'évaluation en France est un mot encore obscène, par des expériences validées que plus les crimes sont graves, plus l'apaisement des personnes, je ne parle pas de guérison, je ne parle pas de thérapie, plus l'apaisement des personnes est réel.
Alors, j'avais très envie de vous poser une question, parce que la justice restaurative, en fait, est déjà implantée dans un certain nombre de pays anglo-saxons depuis les années 70. Bon, comment est-ce que vous expliquez, parce que finalement ça vient très tard en France, par rapport aux expériences vécues et pratiquées dans les autres pays, comment vous expliquez cette avance chez eux ?
Alors,
ou ce retard chez nous ?
Écoutez, en répondant à votre question, à vos questions, je pense qu'on peut trouver un ensemble d'éléments congruents. D'abord, dans le système anglo-saxon, la victime en tant que telle n'a qu'un rôle de témoin. Ensuite, dans les pays anglo-saxons, Il y a une tradition communautaire. Les deux ajoutés font que la victime a eu besoin d'être entourée par un certain nombre d'organismes hein, qui se sont constitués, comme vous le dites, dans les années 60, pour l'accompagner au-delà de ce statut de témoin qui peut être source de revictimisation, mais violente, pour les accompagner au travers à la fois des inconvénients du processus pénal, mais aussi des répercussions personnelles, familiales, sociales, comme j'ai dit tout à l'heure, consécutives au crime, pour l'avenir, encore une fois. Et puis, il faut affirmer immédiatement une chose, et ça fera la transition par rapport à la France. Quand on parle de justice restaurative, des mesures de justice restaurative, il s'agit d'une réinvention.
Vous voulez dire par rapport à la France, France ?
En général, dans les pays anglo-saxons qui l'ont redécouverte. Ce sont des pratiques qu'on retrouve dans toutes les sociétés, chez toutes les procédures qui ont plus ou moins perduré. Je dis plus ou moins, c'est sans doute moins perduré que les intéressés l'auraient souhaité à cause du colonialisme conquérant. En violation des valeurs fondamentales de ces peuples autochtones. Mais on retrouve les mesures de justice restaurative chez les Indiens d'Amérique du Nord, chez les Inuits, en Océanie, en pays africains, mais on les a connues dans notre propre pays. Oui. Avant que la justice royale ne s'installe et que l'État s'arroge la justice pour assumer et assurer sa domination, le traitement se faisait, comme le dit si bien Benoît Garneau, dans l'infrajustice. On n'avait pas systématiquement recours au juge. Alors bien sûr, la France semble être en retard sur certains aspects. N'oublions pas que la médiation pénale, comme la réparation pénale à l'égard des mineurs, a été introduite dans notre droit après une dizaine d'années d'expérimentation en 1993.
Oui, mais enfin c'est très tard par rapport aux autres pays.
Oui, c'est relatif, d'autant plus que maintenant, nous sommes pratiquement, je crois, les seuls à avoir... grâce au législateur et à l'action soutenue de la garde des Sceaux, Mme Taubira, un texte spécifique au titre préliminaire du livre premier du Code de procédure pénale. Donc
c'est inscrit, intégré dans la procédure pénale,
sûr,
dans le Code de procédure pénale.
De manière tout à fait remarquable, à tout stade de la procédure, dans toute procédure pénale, infracteurs et victimes peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Donc notre retard est très relatif, en tout cas on l'a bien rattrapé. Mais alors en France, la résistance, si résistance il y a, c'est plutôt une méconnaissance à mon avis. Il y a de la mauvaise foi naturellement, mais ça c'est assez franco-français. La résistance,
l'esprit critique.
Non, j'assume pleinement ce mot de mauvaise foi. La résistance provient du fait que l'approche traditionnelle du crime chez nous est une approche verticale. Je paraphrase Paul Ricoeur, sans doute à mauvais escient, mais la loi est bonne. Les intervenants au sens large, du magistrat au travailleur social, en passant par les experts, les avocats, etc., la sanction est donc bonne. Mais les intéressés ont un rôle, infracteurs et victimes, définitivement passif. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Je schématise. Par contre, avec la justice restaurative, puisqu'on a le souci, bien évidemment, du traitement de l'acte par le juge, mais aussi des personnes, on s'inscrit dans la transversalité et forcément dans la complexité et forcément dans la pluridisciplinarité.
Et
ça, c'est difficile aujourd'hui de mettre en place, au-delà d'un partenariat, d'un réseau qui participe plus du vœu pieux que de la réalité. En général, il y a de très bons réseaux, de très bons partenariats. Ça se heurte à cette difficulté que l'on a à travailler ensemble.
Alors, vous venez de prononcer le terme de complexité. Mmh. Est-ce que vous diriez que dans notre société actuellement, effectivement, les affaires de justice sont devenues plus complexes ?
Non, pas du tout.
Non, elles ont gardé la même simplicité.
Bien sûr.
Infracteurs et victimes.
Bien sûr, d'autant plus que pour ce qui concerne le crime grave, le délit grave commis avec violence, avec ruse, par effraction, mais que le crime, par exemple, d'homicide, est en chute constante depuis les années 1850. 5000 homicides en 1850, 32 millions d'habitants. Aujourd'hui, en termes de condamnation pénale, 500, et c'est peut-être un peu optimiste, pour 65 millions d'habitants. Donc il y a une réalité qui a été complexifiée, non pas, alors bien sûr, que la science a rendu plus complexe et fort heureusement l'approche des mécanismes de passage à l'acte, mais aussi du traitement, mais la complexité résulte du fait que, dans cet État, et dans cette politique un peu populiste que nous connaissons aujourd'hui, nous avons voulu répondre à tous les conflits intersubjectifs par la pénalisation. Or, il y a des chiffres simples, hein, qui proviennent par exemple, notamment des travaux de M. Charpenel, qui a été directeur des affaires criminelles et des grâces, 15 000 interdits, 15 000 incriminations. Aujourd'hui, les juridictions répressives n'en utilisent que 200, et sur les 200, 60 d'entre elles représentent 80% des décisions. Donc on voit qu'on est en pleine inflation pénale. C'est un vrai bazar. Le système est suralimenté.
En pleine inflation pénale pour des délits que l'on pourrait qualifier de mineurs par rapport au crime par homicide dont vous avez parlé tout à l'heure.
Bien sûr, mais qui mérite une réponse. Et pas forcément pénale. Qu'on rende à la communauté ce qui lui appartient, c'est-à-dire l'œuvre de justice, pour les faits les moins graves. Hein? Mais ces faits les moins graves, aujourd'hui, représentent 80% du contentieux répressif. Et ils pourraient être traités par le juge civil, par le juge rural, par le juge... Le droit des affaires est en voie de dépénalisation.
Je vous arrête parce que ce que vous venez de dire là, vous ne parlez plus de justice restaurative, mais vous parlez en fait de mode de rendre la justice différent.
Oui, mais c'est la justice restaurative qui nous amène à ce constat et à cette nécessité de réorganiser l'œuvre de justice autour de ce qui mérite de l'être. Et dans la complémentarité de cette justice traditionnelle, classique, actuelle, hein, qui n'aurait à traiter que des faits les plus graves, c'est-à-dire 20% du contentieux actuel, la complémentarité avec la justice restaurative s'épanouirait. Définitivement, les protagonistes auraient une réponse pénale et sortiraient, les évaluations sont nettes, par la mesure restaurative, s'ils souhaitent y entrer. Beaucoup plus satisfait qu'aujourd'hui.
Alors, nous sommes amenés tout doucement à la première pause musicale. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ?
Alors, je pense que c'est le Nougaro, que j'aime beaucoup, hein, qui a accompagné, je dirais, toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, et j'espère demain encore, et qui, en même temps, a mis des mots sur une musique de Dave Brubeck Quartet, Take Five. Dans ma jeunesse, j'ai été musicien, j'ai eu l'occasion de jouer ces morceaux, et je crois que cette combinaison me semble particulièrement heureuse, vivante, car la justice aussi doit être quelque chose de vivant.
Quand le jazz est là, la java s'en va, il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le... Gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, y'a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béard en solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Mais quand le jazz est là.
Alors, nous sommes toujours sur Fréquence Protestante avec Robert Carillo, professeur de criminologie et président de l'Institut français pour la justice restaurative. C'est vous qui l'avez créé, cet institut ?
Oui, bien sûr, mais pas tout seul.
Nous allons en parler. Et alors, je voulais faire part aux auditeurs et à mon invité d'une réflexion. Ça n'est pas une question, c'est une réflexion de la part de Clarisse. La justice restaurative est de même nature que la justice contractuelle. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec ce système de contrat généralisé. Voilà. Je pense que ce n'est pas inintéressant.
Non, c'est même très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec la justice contractuelle.
Alors, nous n'allons pas partir...
Ce n'est pas un contrat, c'est un espace de dialogue.
Nous n'allons pas partir dans des débats sur les différents modes de justice. Sinon, nous n'en sortirons pas. Moi, je voudrais une dernière question générale par rapport à la justice restaurative. Est-ce qu'elle est d'ordre thérapeutique ?
Merci pour cette question. Elle est essentielle parce que, au-delà du caractère religieux, que j'appelle... ou plus globalement, pour ce qui nous concerne, spirituel, la seconde critique est celle du caractère thérapeutique de la justice restaurative. Ce que nous contestent, bien évidemment, les métiers du psychologue, le métier psy en général. La justice thérapeutique, pas davantage que le procès pénal, n'a une vocation thérapeutique, que les choses soient bien claires.
La justice restaurative.
La justice restaurative, comme le procès pénal. Il y a des professionnels pour ça. Nous ne prenons pas leur place. Les victimes comme les infracteurs ont besoin d'eux. Et lorsque nous mettons en place les mesures restauratives, nous nous assurons toujours d'une présence psychologique et ou sociale aux côtés des partenaires. Donc cessons de voir dans un processus des animateurs médiateurs qui, comme Jourdain, font de la psychologie. Nous ne sommes pas des thérapeutes. La justice restaurative peut développer par l'apaisement qu'elle provoque et évaluer chez ceux et celles qui participent volontairement au processus un apaisement réel. Alors, je ne le qualifierais pas de thérapeutique.
Bon, alors je crois que le moment est venu que vous nous disiez concrètement qu'est-ce que c'est qu'un processus de justice restaurative. Il y a eu quelques expérimentations, entre des rencontres entre détenus victimes à Poissy en 2010 et 2014, et puis des cercles de soutien et de responsabilité mis en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines. Bon, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Parce que finalement, il y a assez peu de pratiques encore de la justice restaurative.
Bien sûr. Mais ce qui doit être souligné tout d'abord, c'est que c'est sur la volonté forte de personnes professionnelles que cela a pu se mettre en place. Poissy, c'est l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, c'est la maison centrale de Poissy, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, et quelque part, nous n'étions pas encore institués en institut, nous-mêmes, moi-même en particulier, puisque dans toutes ces actions, non seulement j'en assure globalement le cadre, au départ en tout cas, et je suis représentant de la communauté.
Alors, processus de justice restaurative, comment ça se passe ? D'abord, il n'y a que des volontaires.
Absolument. On n'avait pas le temps d'évoquer ce qu'elle n'était pas, mais on n'a pas évoqué ce qu'elle était. C'est un processus dynamique. Contrairement au procès pénal, je le disais tout à l'heure, où chacun est passif, là, les intéressés apprivoisent la mesure, pour le cas, la rencontre détenue-victime, car cette mesure leur appartient. Un cadre est posé avec des animateurs, etc., mais la mesure leur appartient. Donc, l'expérience de Poissy, trois condamnés, trois victimes, ayant...
Mais ça n'était pas, si je puis dire, direct. Les victimes des condamnés et les condamnés victimes.
C'est possible, mais ce n'est pas l'expérience et ce n'est pas ce que nous faisons actuellement en France.
D'accord.
J'espère qu'on va pouvoir le mettre en place, comme ailleurs. Trois condamnés, trois victimes ayant commis, subi des faits similaires, graves, meurtre, viol, assassinat, et en présence de deux animateurs, hommes, femmes, deux représentants de la communauté, parité, encore une fois, respectée. Ce dispositif consiste, alors, trois conditions pour que ça marche. Préparation, préparation, préparation. Lorsque la rencontre, je vais à la rencontre, est considérée comme possible, parce que les intéressés volontaires n'ont pas de velléité vindicative, ne viennent pas seulement pour l'autre, l'auteur pour la victime, mais pour soi-même, parce que nous avons ces questions que j'évoquais tout à l'heure du pourquoi et du comment à évoquer, à la limite de ce que l'on veut livrer, dans le respect de la dignité de l'autre, en toute confidentialité, sans que ça ne rapporte quoi que ce soit aux intéressés. Ça n'est pas dans le dossier pénal de l'infracteur, que les choses soient claires, il n'aura pas d'aménagement de peine. Ça n'apportera pas un surcroît d'indemnisation aux victimes, l'affaire a été réglée par le juge, et ça n'est pas du tout l'objectif. Le protocole 5 séances de 3 heures, hebdomadaires, pour Poissy au sein de la maison
donc
centrale
ça dure,
de Poissy.
Le processus complet dure sur un mois et demi.
Dure sur un mois et demi, 5 séances, et à 2 mois, une séance bilan, pour envisager avec les intéressés, mais c'est eux qui diront comment ils ont vécu l'ensemble du processus et comment, 2 mois après, ils vivent cette expérience. Et l'idéal, bien évidemment, et nous mettons en place des protocoles avec les mesures qui se mettent en place, c'est de l'envisager, ce vécu à 6 mois, à 2 ans, etc.
Alors, les séances durent
3 heures.
3 heures.
Entrecoupées d'une pause.
Oui, et sont complètement animées par des animateurs qui ont été formés pour ça.
Ah, naturellement. Je le disais, préparation. Cela veut dire que la professionnalisation, autant des animateurs, bien évidemment, qui est plus abouti, avec des prérequis, médiation pénale, compétences en gestion de groupes de parole, des compétences en technique d'écoute et d'entretien. Mais l'objectif, la mission de l'animateur, c'est de distribuer la parole dans cet espace de parole qui appartient aux personnes participantes directes. Les bénévoles, représentants de la communauté, sont également formés. On ne peut pas...
Les bénévoles interviennent ?
Les représentants de la communauté,
oui.
Comme moi, j'étais bénévole, d'autres...
Mais ils interviennent, ils parlent.
Le cas échéant, leur mission étant, en cas de besoin, rappeler si c'est nécessaire, la loi... Parce que on est dans des contextes généralement de précarité en ce qui concerne les infracteurs. Et qu'ils ne mélangent pas l'acte qu'ils ont commis, inacceptable, et les victimisations qu'ils ont pu, voire même des victimisations antérieures et n'ont jamais été révélées. Mais on ne peut pas mélanger les choses. Et nous, en tant que communauté, représentants de la communauté, si c'est nécessaire, on le rappelle. On est là aussi pour les soutenir, pour leur dire que oui, nous entendons votre souffrance, aux uns et aux autres. Nous sommes, non pas responsables, mais nous allons nous responsabiliser par rapport à ce que vous avez vécu, autant que faire se peut et selon les mesures, ce n'est pas forcément le cas pour les rencontres détenues victimes, pour favoriser, faciliter votre retour parmi nous, car votre place est parmi nous. Le crime vous a, et les uns et les autres, momentanément mis à l'écart de notre humanité, mais vous êtes définitivement parmi nous. Et le représentant de la communauté n'est pas forcément quelqu'un qui prendra systématiquement la parole en tant que participant comme les autres, mais ramènera aussi dans sa communauté d'appartenance cette réalité que la justice restaurative, la mesure, les rencontres détenues victimes ne sont pas de l'ordre du pardon, ne sont pas de l'ordre thérapeutique, mais un espace de dialogue qui conduit vers l'apaisement. Ça n'est pas de la sous-justice. Le juge, on est en complémentarité avec la décision qu'il a pu prendre pour les RDV. Ça peut être différent dans les mesures présententielles, mais c'est essentiel. Aussi longtemps que la communauté, la société civile, je préfère le terme de communauté, se désintéressera alors que c'est de notre compétence. La justice, c'est l'affaire de tous. De la question pénale au sens large, aussi longtemps, ces personnes marquées par le crime, leurs proches, leur communauté d'appartenance, dans un sens comme dans l'autre, demeureront exclues de notre humanité.
Mais alors, dans ce processus, chacun est amené à se dire et à dire ses souffrances.
Oui.
En fait, c'est ça.
Et à la limite de ce qu'il veut, les deux conditions, c'est le respect de la parole de l'autre et la confidentialité. L'animateur a cette vocation à distribuer la parole et à vérifier la teneur des propos, lorsqu'ils peuvent devenir, la colère peut s'exprimer, la souffrance, les larmes, les rires, mais ça doit être bien évidemment dans une stratégie de partage équitable de la parole entre tous.
Alors, je suppose que le rôle de l'animateur, d'abord les séances doivent être très éprouvantes pour tout le monde.
Oui.
Très très éprouvantes.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y en a, qui arrêtent en cours de route parce que c'est trop dur?
Le principe de la justice restaurative, c'est le volontariat. On y entre, mais après préparation, j'insiste, lorsque l'intéressé s'est choisi pour participer, puisque dans la préparation, on va tenter de connaître les motivations, les besoins, les attentes de chacun. Et à chacune des questions qu'il pourra se poser, on lui renverra la question en lui demandant qu'est-ce que vous en attendez vous-même relativement à cette question, qu'est-ce que vous imaginez. Donc en préparant, on gère l'effet éventuel de surprise, quand la rencontre plénière, appelons-la comme ça, aura lieu, et on précise qu'on y entre volontairement et qu'on en sort volontairement. Mais en jouant sur cette notion de responsabilisation, mais ça n'empêche que la liberté de sortir est totale, qu'il y a un groupe qui s'est constitué et qu'il pourrait y avoir un déséquilibre si l'un ou l'autre souhaitait le quitter. Mais s'il le veut, il le peut.
Mais les animateurs, bien évidemment, ont besoin d'être très formés, je pense. Est-ce que dans votre institut, vous prodiguez des formations de cette nature?
Bien sûr. Nous avons une convention de formation avec l'Institut national des victimes et toutes ces formations sont prévues. Il y en avait une à Pau sur ce thème la semaine dernière, il y en a une à Paris sur ce thème la semaine prochaine, une autre à Lyon en décembre, une autre à Marseille. Et maintenant, avec les moyens qui sont les nôtres à l'Institut, et ils sont non pas négligeables, mais nettement insuffisants, eh bien nous avons vocation, ce que je fais déjà, et je me qualifie souvent de passeur de la justice restaurative partout en France, pour promouvoir précisément non seulement la justice restaurative, mais souligner que c'est quelque chose de professionnel qui ne s'improvise pas et que des formations sont prévues.
Est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour être formé?
De plus en plus.
Ah, de plus en plus.
Ah oui.
Est-ce que
autant
vous y...
chez les bénévoles que chez les potentiels animateurs.
Voilà. Est-ce que vous y voyez un signe positif de l'évolution de la société par rapport à la justice restaurative?
Alors, ce sont toujours les mêmes qui vont venir vers nous, ceux qui sont peut-être déjà engagés dans des postures d'humanité. Mais lorsque la question restaurative est présentée d'une manière simple, mais en rappelant qu'elle repose sur des évaluations scientifiques de qualité, ceux qui nous entendent et qui ont déjà cette posture peut-être du regard de l'autre, qui les institue eux-mêmes en personne, il y a un intérêt de plus en plus fort.
Mais en même temps, vous avez prononcé, il me semble, un mot important, qui est le mot d'évaluation. Nous sommes dans une société très pragmatique, qui a besoin de mesures scientifiques, d'évaluations précises. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de dire les bénéfices, prononçons ce mot, les bénéfices apportés par la justice restaurative?
Bien sûr. En France, non.
Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'expérience.
D'une part, et parce que l'évaluation, je vous le disais tout à l'heure, a quelque chose d'obscène. On considère que lorsque l'on est évalué, sauf si on se évalue soi-même, et c'est assez courant, et c'est bien évidemment catastrophique, l'évaluation est vécue un peu comme une remise en cause, alors que c'est une richesse. L'organisme évalué l'est évalué dans ses faiblesses, s'il y en a, mais surtout conforté dans ses richesses. Et l'évaluation sur des modèles identiques au niveau de la France permettrait de développer un peu partout en France ces mesures et d'aller vers précisément ces méta-analyses qui permettraient de dire, ben voilà, en 2010, en 2012, en 2014, un certain nombre de rencontres détenues fictives ont eu lieu. Un protocole d'évaluation, nous en avons établi un pour des rencontres qui vont avoir lieu avec le SPIP de Pontoise, de Val-d'Oise, et l'APCARS, l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale de Paris, un protocole d'évaluation a été mis en place. Et si ce protocole était apprivoisé par tous et amélioré par tous, eh bien, nous aurions à relativement moyen terme, dans les 3-4 ans, une possibilité très concrète d'évaluer scientifiquement Et ça vous ennuyait de parler de bénéfices. Moi, cette notion de coût-bénéfice est absolument essentielle. Nous sommes financés les uns et les autres, à titre de professionnel, à titre d'institut, par nos citoyens. Nous lui devons des comptes. Et d'autre part, nous ne pouvons pas remettre en situation de souffrance des personnes qui le sont déjà suffisamment. Donc ça suppose une formation, absolument, inévitablement, et une évaluation.
Alors nous allons maintenant venir à la seconde pause musicale. J'ai le sentiment que vous nous avez apporté là quelque chose de très différent par rapport au jazz de la première fois.
Oui, mais je suis celte, breton.
Ah, ceci explique beaucoup de choses.
Je ne sais si cela explique beaucoup de choses. Et j'ai choisi cet extrait car provient d'un programme dans le cadre du festival interceltique de l'Orient qui a été mis en musique par un de mes anciens collègues musiciens que je salue au passage, Dan Arbraz.
Nous sommes toujours avec Robert Carillo, donc, qui nous parle de son institut pour la justice restaurative et de toutes, moi je dirais, de toutes ses ambitions qui sont fortes pour l'avenir de la justice restaurative. Alors moi j'ai une question justement d'une auditrice qui s'appelle Claude et par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur l'évaluation, etc. Est-ce qu'il y a des témoignages sur l'après, entre guillemets, c'est-à-dire comment on vit après être passé par un processus de justice restaurative? On vit mieux?
Je ne peux pas répondre à cette question. Ce sont les intéressés qui doivent vous répondre. Mais nous avons reconstitué dans l'après, dans le cadre d'un ouvrage publié chez l'Harmattan, Les rencontres des victimes, que j'ai sous-intitulé L'humanité retrouvée, les témoignages de ces personnes à distance de l'événement. Il a été publié en 2012, donc c'est à 2 ans de la première expérience. Et on lit effectivement que cet apaisement qui a été constaté par tous lors de la séance de clôture est permanent. On constate aussi, j'interviens maintenant, et je crois que c'est très important, au sein même de la centrale de Poissy, pour présenter moi-même la justice restaurative aux condamnés qui sont intéressés, au dire des CPIP, des conseillères d'insertion et de probation, que les individus ont changé, que ce changement est durable. Cette remarque m'avait frappé de l'une d'entre elles.
Ils ont changé comment?
C'est un autre homme.
Oui, mais ils ont changé comment?
Ils se sont intégrés, non plus comme numéro d'écrou, mais comme personnes, qui ont été regardées par d'autres personnes comme des personnes. Et cela a déclenché chez eux, pour l'un, l'inscription dans un processus de réinsertion sociale par la formation, pour l'autre, la reprise d'une activité qu'il s'était condamné d'exercer à la suite de son acte de dessin. Enfin, dans ce livre, vous trouverez, et sur d'autres sites, par exemple, csjr.org, Centre de Services de Justice Restaurative du Québec, des témoignages d'anciens détenus, d'anciennes ou d'anciens condamnés, d'anciennes victimes, qui montrent, pour les unes, que l'apaisement est durable. Pour les autres, avec un biais bien évidemment, puisqu'on ne travaille que sur ceux qui ont participé, pas sur ceux aujourd'hui, la méthodologie en tient compte, devra en tenir compte, qui ont refusé ou à qui on n'a pas proposé, mais tous soulignent précisément les bienfaits. Et sur la récidive, c'est absolument essentiel. La question de la récidive est aujourd'hui galvaudée, alors que ceux qui ont participé par exemple au RDV, sauf à ne pas le savoir, mais tout finit par se savoir, d'autant plus que la province du Québec n'est pas si grande, les taux de récidive sont infimes. Dans les cercles de soutien et de responsabilité qui interviennent en fin de peine, sans accompagnement socio-judiciaire quelconque, dans le cadre d'un accompagnement, on n'aura pas le temps de le développer aujourd'hui, mais c'est encore une fois dans les livres que j'évoque, par des bénévoles formés. La récidive, par rapport à un groupe de contrôle n'en ayant pas bénéficié, est de 6 à 8 fois moindre. Et ça, on ne peut pas continuer.
C'est donc là, on peut toucher du doigt un bénéfice pour la société.
Mais bien sûr,
et pour les personnes.
Pour tout le monde.
Mais
pour
bien
tout
sûr,
le monde.
Absolument. Alors, quand on va sur votre site, dont je donnerai la mention tout à l'heure, quand on va sur votre site, on voit que vous avez créé une plateforme. Votre plateforme, et notamment que dans la création de cette plateforme, il y a eu une très forte impulsion de la part de l'aumônerie des prisons de la Fédération protestante de France. L'idée de cette plateforme, c'est de rassembler un maximum de gens de bonne volonté autour de la justice restaurative.
C'est une idée peut-être sous-jacente, mais l'objectif de rassembler un maximum de gens sera plus un objectif de communication. L'objectif de la plateforme, effectivement, qui comporte la plupart des aumôneries de prison, l'Institut national d'aide aux victimes, l'Institut français pour la justice restaurative, des personnels de l'administration pénitentiaire qui y sont soit avec l'autorisation de leur hiérarchie ou à titre bénévole, c'est de réfléchir. C'est un organe de réflexion, donc qui suppose qu'on ait des connaissances, bien évidemment, en la matière, en vue de promouvoir la mesure. C'est un organe aussi, enfin une plateforme aussi, qui a, c'est plus une ambition, puisque nous l'avons fait, de faire connaître auprès, au sens large du législateur, les évolutions potentielles du système de justice pénale actuel qui n'a pas que des défauts, mais vers un plus grand épanouissement. Et nous avions rédigé à cette occasion des amendements au projet de loi qui était en cours sur l'individuation des peines, etc., qui ont été, pas seulement grâce à nous, mais aussi par d'autres sénateurs ou organismes, pris en compte par la loi de 2014.
Alors, moi, je voudrais... notre émission touche bientôt à sa fin. Bon, comment voyez-vous les prochaines étapes? Quelles sont vos ambitions, vous, Robert Carillo, qui portez ce projet?
Mon ambition est que les personnes aujourd'hui en souffrance puissent trouver, au sein de notre société, au sein de notre communauté, un véritable réconfort. Ça n'est pas une visée qui participe d'une utopie particulière. Je crois que c'est important que la loi passe, si elle a été transgressée, que l'indemnisation soit faite, si elle est nécessaire, mais que la réintégration, la reconnaissance des personnes soit pleine et entière. Et à partir de cet instant, je pense que, au regard des résultats que nous avons, nous allons faire, finalement, ce que le système de justice pénale tout entier veut réaliser, mais suralimenter, il ne le peut pas, à savoir aussi assurer la sécurité de nos propres concitoyens, assurer la tranquillité de tous et aller vers une meilleure harmonie sociale.
Bien, Robert Carillo, je vous remercie. Et je vais indiquer très rapidement votre site aux auditeurs, parce que je pense qu'ils vont y trouver des renseignements intéressants pour ceux qui veulent poursuivre cette réflexion. C'est très simple, justicerestaurative.org. Et vous citiez tout à l'heure un site québécois sur les témoignages des gens qui étaient passés par un processus de justice restaurative, csjr.org. Robert Carillo, merci.
Merci à vous de m'avoir invité.